Théologie mystique, Père Philippe, 5 novembre 1982, Rimont.
Nous avons tous, alors, une question posée, donc j'y réponds toujours, je ferai toujours comme ça, puis après nous entrerons dans le cours. Nous avons tous en nous les 7 dons du Saint-Esprit, mais cela ne dépend pas de nous, c'est bien évident. C'est un don gratuit, comme la grâce. Et avec la grâce est donné les 7 dons du Saint-Esprit et les vertus théologales. Qu'est-ce qui dépend de nous pour qu'il s'exerce? Notre désir qu'il s'exerce. Notre soif qu'il s'exerce. Notre désir d'être novice du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aime bien d'avoir des novices. Et d'avoir de nombreux novices. Alors il faut avoir le désir d'être docile au Saint-Esprit. Le désir que, de fait, notre vie soit entièrement remise au bon plaisir de Dieu. Notre désir d'entrer pleinement dans le sens de la nouvelle alliance, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances. C'est d'entrer dans les complaisances du Père. C'est ça que demande l'Esprit Saint. C'est que nous entrions dans les complaisances du Père. Entrer dans les complaisances du Père, c'est justement comprendre un au-delà des commandements, un au-delà de ce qui est commandé, ordonné, pour entrer dans la complaisance du Père, dans le bon plaisir du Père. Est-ce que le désir d'être vu par le Saint-Esprit suffit? Oui. Mais un désir qui soit un désir qui nous prenne et qui nous mobilise, c'est-à-dire un désir qui soit autant que possible efficace. Alors, je crois que la manière pratique pour nous, c'est de comprendre que c'est l'adoration en esprit et en vérité qui nous met dans cette disponibilité fondamentale à l'égard de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne peut mouvoir que ceux qui adorent la volonté du Père, que ceux qui adorent le Père. Et donc c'est vraiment l'adoration qui nous met dans cet état de disponibilité. L'adoration nous conduit à l'abandon divin. L'abandon divin, pas l'abandon psychologique, hein, mais l'abandon divin. Vous savez la différence entre les deux. Hein. L'abandon psychologique, c'est un manque de vertèbres, et l'abandon divin, c'est nous mettre de plus en plus dans la disponibilité fondamentale du Père. Dans la disponibilité fondamentale de la volonté du Père. Un désir que Dieu passe toujours devant. C'est ça notre bonne volonté. Paix aux âmes de bonne volonté. Être une âme de bonne volonté, c'est une âme qui adore et qui s'abandonne pleinement et totalement à la volonté du Père. C'est la seule chose que nous pouvons faire. Ne jamais résister au Saint-Esprit et lui demander d'être là. Puisque quand on résiste, vous savez bien, on donne un petit coup de chiquenaude sur les paupières de la colombe. Et la colombe s'évanouit. On ne la tue pas, mais elle s'évanouit. Alors nous allons entrer, si vous voulez, aujourd'hui, c'est un premier cours de l'année. Vous voyez bien ces deux cours que nous faisons. Premier cours sur toute la révélation. Donc, sur toute la révélation, nous essayons de comprendre le devenir de la révélation. Comment Dieu progressivement nous conduit à la plénitude de la révélation. Et en voyant l'évangile de Saint Jean, nous voyons la plénitude de la révélation. Ordre génétique, ordre de perfection. Et je crois que les deux doivent toujours se tenir et s'éclairer mutuellement. C'est ce que nous verrons. Si on avait un regard suffisamment profond et suffisamment limpide, on verrait que cet ordre génétique qui commence avec la jumelle, qui se termine avec l'évangile de Saint Jean. Cet évangile de Saint Jean, lui, c'est au sommet, le premier, dans l'ordre de nature, que c'est la révélation ultime. Tandis que, ici, nous sommes au point de départ. Donc, nous allons de l'imparfait vers le parfait. Et d'une certaine manière, le parfait contient tout l'imparfait. Tout ce qui est de l'ordre de l'imperfection, c'est de l'ordre de la disposition. Le parfait contient toute cette disposition, c'est ça qu'il faudrait arriver à saisir. ça met du temps, parce que nous sommes de pauvres êtres opaques. Et nous avons la difficulté d'avoir la lucidité comme le Saint-Esprit. Il faudra arriver à saisir comment tout l'évangile de Jean contient toute cette succession. Tout est présent et tout est ultime dans l'évangile de Saint-Jean. Tout ce qui a été donné dans l'Ancien Testament est présent dans l'évangile de Jean. Parce que l'évangile de Jean représente le premier dans l'ordre de la perfection. Et alors, après, nous avons la tradition. C'est-à-dire l'évangile de Jean vécu dans le cœur des saints. Vécu dans le cœur de Marie, tout ça c'est dans l'évangile de Jean, et ensuite vécu dans le cœur des saints. Alors vous voyez, c'est là où notre théologie doit prendre toute son intensité. Et pour nous, ici, nous voulons être une école de Saint Jean, il faut comprendre que nous devons toujours revenir à l'Ancien Testament, puisque c'est la disposition, et pour nous c'est quelque chose de beaucoup plus descriptif et c'est plus facile à comprendre, c'est plus long mais c'est plus facile à comprendre, ça nous aide à comprendre le mystère de Saint Jean, et comment ensuite la tradition nous montre comment tout s'explique. La tradition avec ses grandes lumières, et les grandes lumières dans la tradition sont les trois signes qui nous sont donnés dans le ciel, il y a l'Immaculée Conception, l'infaillibilité et l'Assomption. Tout l'évangile de Saint Jean se termine dans ces trois grands dogmes. Et la canonisation, parce que les canonisations font partie de la tradition. Et la dernière canonisation, le Père Code. Vous voyez, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre progressivement. Je vous donne ça en grande fresque, parce que c'est important d'avoir toujours une fresque. Alors, ce que nous appelons aujourd'hui l'économie divine, la théologie de l'économie divine, la théologie du salut, avec le point de vue de l'Église. Mais j'aime mieux dire que, de fait, nous avons une théologie qui implique le devenir. Progressivement, nous avançons vers le mystère du Christ. Vers le mystère de Jésus. Vers le mystère du cœur de Jésus. Et c'est au centre de toute la révélation. Et dans le mystère du cœur de Jésus, nous découvrons la très sainte Trinité. C'est la grande lumière qui nous est donnée, une lumière d'amour. Là, lumière et amour ne font qu'un dans le cœur de Jésus. Lumière et amour ne font qu'un. C'est propre du cœur de Jésus. Et ça nous éclaire tout le mystère de la très sainte Trinité. Et ensuite, nous pouvons comprendre comment tout ce mystère est gardé dans le cœur des saints. Là, nous comprenons le sens de l'Église. L'Église, c'est de garder cette grande révélation dernière et en vivre pleinement. Et c'est là où nous nous situons. Je dirais que ici, la communauté Saint-Jean a un sens, c'est se situer dans cette grande tradition joannique. Dans la tradition. Alors, un petit mot pour que vous compreniez bien ça, c'est parce que ça c'est la grande, et c'est pour comprendre comment ces deux cours se tiennent. Vous voyez, le cours sur le point de vue de génétique, sur le point de vue de tout l'Ancien Testament, et puis le point de vue que nous allons voir maintenant. Alors, c'est ici, on est ici en théologie mystique. Et vous comprenez, c'est la théologie mystique. L'évangile de Saint-Jean, c'est la théologie mystique. On ne peut pas faire une théologie mystique en dehors de l'évangile de Saint-Jean. Et c'est vraiment l'évangile de Saint-Jean qui nous fait comprendre la théologie mystique. Mais vous voyez, ce sera l'évangile de Saint-Jean qui sera vécu dans le cœur de tous les grands joanniques, Saint-Jean de la Croix. Saint-Jean de la Croix nous fait comprendre le mystère du cœur de Jésus. Le mystère de l'oraison. Le mystère de la contemplation. Et tu prends Saint-Jean de la Croix, tu pourrais prendre Saint-Jean tous les grands saints qui sont... Saint Augustin, Saint Thomas, puisqu'ils sont tous liés à Saint Jean. Tous ceux qui sont liés à Saint Jean, la grande tradition joannique. Et redécouvrir cette grande tradition joannique qui ne supprime pas les autres, qui n'est pas en opposition avec la tradition paulinienne, mais qui exprime ce qu'il y a d'ultime dans le mystère de l'Église. Ce qu'il y a d'ultime dans le mystère de la révélation. Alors, d'abord, comprenons bien. Ce que je vous dis ici présuppose que l'évangile de Saint Jean soit ultime. Alors là, je me sers, voyez, de ce que les meilleurs exégètes sur saint Jean, le père Braun, le père Feuillet, nous disent. On a le droit d'utiliser certaines conclusions d'exégèse, n'est-ce pas, quand ce n'est pas en contradiction avec une tradition. Parce que la grande tradition considère justement que les écrits de Jean sont quelque chose d'ultime, ça c'est bien évident. Toute la tradition. Je me souviens la réaction du père Feuillet quand un certain exégète que je ne nomme pas avait voulu, si vous voulez, couper en petits morceaux avec une paire de ciseaux Saint Jean, l'évangile de Saint Jean. Et le père Feuillet était blessé au plus intime de son cœur en disant, mais l'évangile de Saint Jean, c'est pour la nouvelle alliance ce qu'est le cantique des cantiques à l'ancienne alliance. Et c'est vrai, c'est notre cantique des cantiques. Hein. C'est notre cantique des cantiques, l'évangile de Saint Jean. C'est ce qu'il y a de plus secret, de plus mystérieux dans la nouvelle alliance. Et c'est ça que nous devons saisir et comprendre pour voir. Donc toute la tradition considère vraiment que le sommet de la révélation, c'est l'évangile de Saint Jean. Alors, les dernières précisions des exégètes sont intéressantes là-dessus. C'est de voir que l'évangile de Saint Jean est sûrement, historiquement, ce qu'il y a d'ultime. Autrement dit, l'Apocalypse et la première épître de Saint Jean sont antérieurs à l'évangile. Il semble bien, historiquement, hein. C'est de l'ordre de l'opinion, ça. Peu importe, même si c'était faux, ça n'aurait pas d'importance. Hein. Mais c'est quand même intéressant. C'est intéressant puisque ça fait partie de ces recherches historiques pour situer. L'évangile de Saint Jean apparaît donc comme ultime, comme dernier. C'est pour ça qu'il pose tant de problèmes aux historiens. Parce que de fait, vous comprenez qu'entre la révélation du Christ et l'évangile de Saint Jean, il y a 50 ans, plus de 50 ans. Alors, si vous vivez une première année ici à Rimont et que dans 50 ans vous écrivez votre première année de Rimont, qu'est-ce que vous diriez? Alors, voyez, le vieux Saint-Jean qui se met à écrire son évangile. Alors, il radote un peu. C'est le vieux Saint-Jean qui se met à écrire son évangile. Comment, dans l'évangile de Saint-Jean, y a-t-il encore quelque chose d'historique? Et c'est pour ça que certains disent, c'est pas du tout, il n'y a rien du tout d'historique dans l'évangile de Saint-Jean. Alors il faut comprendre que l'évangile de Saint Jean n'est pas premièrement historique, mais qu'il contient des faits historiques. Et les meilleurs exégètes de Saint Jean considèrent que Saint Jean dit des faits plus historiques que Luc, que Marc et Matthieu. Et ça c'est très beau. C'est le point de vue mystique qui atteint le réel dans ce qu'il a de plus profond. Qui atteint le point de vue du Christ, l'histoire du Christ, dans ce qu'il y a de plus profond. Et ça, je crois que c'est très vrai. Je crois que c'est vraiment Jean qui nous donne l'ordre le plus historique. Évidemment, je sais très bien que c'est très contesté chez des quantités d'exégètes. Mais c'est quand même la vision des meilleurs exégètes de Saint Jean, le père Braun et le père Feuillet. C'est intéressant de voir qu'au moins il y a des exégètes qui disent ça. Je pourrais le dire simplement point de vue théologique. Plus on creuse profondément, plus la révélation va loin, plus elle rejoint concrètement la réalité. Et c'est ce que Bergson a saisi à sa manière. Les grands mystiques, ce sont les gens les plus réalistes. Parce qu'ils vont jusqu'au bout du réalisme. Parce qu'ils vont très loin dans l'ordre de l'amour, alors ils rejoignent l'être. Oui, l'amour et l'être. Ils rejoignent l'être qui est. Parce que les deux choses sont inséparables. Et les deux choses doivent en quelque sorte toujours se commander l'une l'autre. Si je vais plus loin dans l'ordre de l'amour, j'aurai un regard beaucoup plus pénétrant dans la réalité. Et je crois que c'est ça l'évangile de Jean. C'est que l'évangile de Jean va très loin dans la réalité, va très loin dans l'ordre de l'amour. C'est ce que nous essaierons de faire. C'est la grande théologie de l'amour, puisque c'est la théologie du cœur blessé du Christ. C'est la grande théologie de l'amour. Si c'est la grande théologie de l'amour, c'est en même temps la théologie qui nous montre le mieux la vie du Christ comme pèlerin d'amour, comme le grand pèlerin de l'amour, comme celui qui est venu nous annoncer progressivement ce qu'était l'amour. Donc je considère que l'évangile de Saint Jean est bien le premier dans l'ordre de la perfection, dans l'ordre de la révélation. Deuxièmement, l'évangile de Saint Jean a ceci de très particulier, et là je me sers justement de toutes les critiques qu'on fait sur Saint Jean, c'est qu'entre la mort de Jésus, le pèlerinage de Jésus sur la terre, donc Jean, disciple de Jésus, et Jean qui écrit son évangile, il y a 50 ans, 60 ans, entre les deux. Comment comprendre la continuité qui existe entre ce que Jésus dit et ce que Jean écrit? N'oubliez pas que c'est ce problème-là qui a posé le problème de l'herméneutique. C'est très important de saisir ça, il faut au moins le saisir. On verra progressivement, je vous ai dit qu'on essaiera d'étudier ce que c'est que l'herméneutique. Mais je signale ici, c'est proprement ce problème-là. C'est qu'entre Jésus, source de la révélation, et Jean qui écrit, il y a 60 ans. Il ne faut pas dire 70. Il y a 60 ans. Alors, comment expliquer que l'évangile de Jean peut encore être historique? Puisque humainement parlant, quand on est témoin qu'il y a 60 ans entre deux, ça n'a plus beaucoup de valeur historique. Très bien, si vous voulez. Je prends un petit exemple très simple. Marthe Robin est morte il n'y a pas longtemps. Tous ceux qui aiment Marthe Robin voudraient qu'on puisse faire quand même une enquête sur ceux qui ont été témoins durant sa vie. Si on attend 20 ans, on n'aura plus de témoins immédiats. Ce qui est important, c'est d'avoir ces témoins immédiats. Et je comprends très bien au point de vue historique. Au point de vue historique, vous voyez, si de fait le Saint-Esprit avait voulu écrire les évangiles comme des livres historiques, le Saint-Esprit aurait demandé à Pierre, le jour de la Pentecôte, je crois que Pierre était parfaitement docile au Saint-Esprit. Je crois que le jour de la Pentecôte, il était un peu foudroyé par le Saint-Esprit, donc il était parfaitement docile au Saint-Esprit. Pierre aurait dû, le jour de la Pentecôte, première action de Pierre, puisqu'il était quand même le responsable, il aurait dû former une commission, tout de suite, mobilisant les apôtres qui ont été témoins avec Matthias pour écrire l'évangile de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit aurait dû faire ça pour Pierre. Or, le Saint-Esprit n'a pas fait ça. Pierre a fait exactement comme le Christ. Il a commencé à prêcher. C'est vrai. Les jeunes apôtres, ils commencent à prêcher. Et ils prêchent tout de suite. Ils ne vont pas s'arrêter à écrire tout de suite en disant « je vais écrire immédiatement ». Les prémices de la vie apostolique, c'est la prédication. Et ça continue le style de Pierre. Ça continue le style de Jésus. Il n'a rien écrit, Jésus. Il faut essayer de comprendre un peu ça et le regarder dans la réalité. De fait, le Saint-Esprit a poussé Pierre uniquement à prêcher. Elle a poussé Jean à prêcher. Il n'a pas demandé aux apôtres de se réunir immédiatement dans une commission alors que leur mémoire était encore toute fraîche. Je veux dire, nous allons raconter l'histoire du Christ. Ils n'ont pas fait ça. Ce n'est pas un oubli du Saint-Esprit. L'Église est conduite par le Saint-Esprit, pas par les théologiens, pas par les églises. L'Église est conduite par le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas un oubli. C'est une volonté expresse de Dieu. C'est une volonté expresse de Dieu. Et c'est très important de comprendre ça. Les premiers pas, comme c'est important de comprendre ça, les premiers moments de l'Église, les actes des apôtres qui nous montrent ça, de fait, le Saint-Esprit n'a pas voulu ça. Pourquoi ? Pour que la parole de Dieu soit gardée dans le cœur des saints. Et donc, pour que de fait, il y ait l'enseignement du Christ, plus la tradition. Voilà ce que représente l'évangile de Jean. L'enseignement du Christ, plus la tradition. C'est ça l'évangile de Jean. Qu'est-ce qui fait la continuité pendant ces 60 ans? Ah, c'est parce qu'il y a un mystère de tradition. L'herméneutique ne regarde pas la tradition. Pourquoi ? Parce qu'on regarde l'écrit. on oublie qu'il y a deux sources de la révélation. Et ceci, c'est dit au Concile de Trente, c'est dit à Vatican II. Le Concile de Trente et Vatican II, là-dessus, sont exactement la même position. Deux sources de la révélation. L'Écriture et la tradition. Et ça, c'est très important de comprendre ça. La parole de Christ, l'enseignement du Christ et la tradition. Voilà l'évangile de Jean. Ça implique les deux. Pourquoi, alors, je pose la question, pourquoi le Saint-Esprit, qui conduit l'Église, a-t-il voulu qu'il y ait la tradition? C'est pour faire comprendre comment la parole de Dieu, la parole de Jésus, c'est la parole d'un père, c'est la parole d'un ami, c'est la parole d'un époux. C'est un enseignement d'amour. Seul un enseignement d'amour implique une tradition familiale. C'est dans une famille que la tradition. Et puis dans la famille, après, c'est le peuple de Dieu. Mais c'est dans une famille. Dans une famille, il y a une tradition. Au sens rigoureux, il n'y a pas de tradition mathématique. Il n'y a même pas de tradition philosophique. Il y a une tradition d'une parole affective, des secrets de la vie. Les secrets de la vie sont communiqués pour être gardés. La parole de Dieu est une semence, c'est dit dans Saint Luc. C'est une semence, la parole de Dieu. Et c'est une semence qui demande justement de fructifier. Et elle fructifie grâce à la tradition. Qu'est-ce que c'est que la tradition? C'est la parole de Dieu gardée dans le cœur des saints. Et donc c'est la parole de Dieu gardée dans le cœur de la sainte, c'est-à-dire Marie. Et que l'évangile de Jean, c'est donc bien la parole du Christ gardée dans le cœur de Marie. Et gardée dans le cœur de Jean, et gardée dans le cœur de Pierre, et gardée dans le cœur de tous les apôtres. Mais en premier lieu dans le cœur de Marie. Elle est la bonne terre qui garde la parole de Dieu. Et l'Esprit Saint a voulu, et c'est ça qui est très beau dans cette conduite du Saint-Esprit, l'Esprit Saint a voulu tout de suite nous faire comprendre que Dieu voulait que sa parole soit gardée dans le cœur des saints. C'est pas nécessaire, le Christ n'avait pas besoin de ça, le Christ aurait pu très bien écrire, hein. Il savait écrire, il aurait écrit magnifiquement, il aurait écrit de façon étonnante. Il n'a pas voulu, il a voulu au contraire que sa parole soit gardée dans le cœur des saints, pour qu'elle fructifie dans le cœur des saints. Ça, c'est capital. Et si on ne comprend pas ça, on ne voit plus la conduite fondamentale de l'Esprit Saint sur l'Église. Les deux sources de la révélation, la tradition et l'Écriture. Et que la révélation, la tradition enveloppe l'Écriture. Elle est avant l'Écriture, elle est après l'Écriture. Et toutes les deux nous donnent le mystère de la parole vivante. Une parole est vivante quand elle est gardée dans la tradition. Si une parole n'est plus gardée dans la tradition, elle est écrite. Alors elle n'est plus de parole vivante. Tandis que la tradition permet à la parole de Dieu d'être vivante, c'est-à-dire de pouvoir expliciter toutes ses richesses. Et c'est dans le cœur de Marie qu'il faut comprendre ça. Et c'est, je crois, ce problème, parce que c'est le problème actuel le plus fondamental, hein. C'est qu'on veut trouver dans les évangiles uniquement des récits historiques. La méthode critique historique. Vous comprenez que ça porte à faux. Parce que les évangiles ne sont pas en premier lieu des écrits historiques. Ils sont en premier lieu des témoignages. Ce sont des témoins qui parlent. Et qui parlent d'un mystère dont ils ont vécu. Les évangiles impliquent un aspect historique, mais c'est second, c'est pas premier. Parce que le mystère qui est révélé dans les évangiles n'est pas premièrement historique. Il est d'abord un mystère. Et un mystère n'est pas historique. Donc c'est très simple à comprendre. Hein. Le mystère est surnaturel, il est divin. C'est très très important de saisir ces choses à leur origine, parce que c'est à partir de là que, de fait, on voit toutes les déviations. Alors, c'est ce que nous verrons ça constamment dans l'évangile de Saint Jean. L'évangile de Saint Jean, donc, c'est ce qu'il y a d'ultime entre la parole, la source de la révélation de Jésus, et la tradition. Alors vous allez dire, mais la tradition alors va de fait modifier la parole. La tradition va modifier la parole. Et donc, au fond, on ne sait jamais si c'est la parole de Jésus. Non. Parce que le propre de la tradition, c'est justement d'avoir la garantie de l'Esprit Saint. Le mystère de l'infaillibilité, il est d'abord dans la tradition, avant d'être dans le pape. Il ne faut jamais l'oublier. Et ça, peut-être, c'est une des manières qu'il faudrait comprendre. Hein. L'infaillibilité du Saint-Père ne peut pas se comprendre si on ne comprend pas que la tradition est infaillible parce que c'est l'Esprit Saint qui dirige le cœur des saints. L'Esprit Saint, il est directeur et rector du cœur de Marie. Alors, vous croyez que Marie modifie la parole de Jésus ? Non. Marie garde la parole de Jésus dans son intégralité, dans toute sa force. Alors, ce que Marie peut faire, c'est justement mettre en valeur telle ou telle parole de Jésus. C'est, je crois, le rôle de la tradition. C'est une mise en valeur. Mais la tradition, garder une parole dans notre cœur, quand on garde la parole d'un ami, qu'est-ce qu'on fait quand on garde la parole d'un ami? On ne modifie pas la signification de la parole de l'ami, mais on met en valeur telle ou telle de ses paroles. Et ça, on a le droit de faire, c'est le propre de la tradition. La tradition a un ordre particulier qui est quelque chose de spécial, et cet ordre, c'est justement dans le cœur de Marie. Ça correspond à la réalité, c'est bien évident, c'est une mise en valeur. On pourrait dire que la parole est de l'ordre du complément, d'une complémentarité de la source première. Jésus a voulu que Marie, la femme, ait un rôle à jouer. Jésus a voulu que les apôtres, les amis, aient un rôle à jouer, un rôle de complémentarité. Ce n'est pas un rôle uniquement de garder, comme dans un coffre-fort, intégralement, c'est de garder d'une manière vivante. On garde une parole d'une manière vivante quand on l'aime. Et alors, avec l'amour, on donne de l'intérieur une nouvelle valeur, vous voyez. Ça, ce serait très beau à bien préciser et à bien comprendre qu'est-ce que c'est que cette complémentarité de la tradition par rapport à la parole. Alors, il faudrait faire l'analogie, vous voyez, entre l'ami qui garde la parole de son ami, une épouse qui garde la parole de son époux, la manière dont elle garde la parole de l'époux. Ah, tu m'as dit ça. C'est pas du tout, vous voyez, une revendication, non. C'est au contraire une mise en valeur. C'est l'amour qui met en valeur la parole. La parole, elle, relève de l'intelligence. Et une parole vivante, c'est une parole enveloppée d'amour. C'est une parole qui est toujours liée à la source. Et alors, c'est une parole aimante. C'est une parole qui conduit à l'amour. C'est pour ça que saint Thomas nous dit que la parole divine, elle est verbum spirans amorem. Elle est toujours un verbe qui spire l'amour. Elle est toujours une parole qui conduit à l'amour. Et que c'est cela le sens dernier et ultime de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous conduit à l'amour. Tant que la parole de Dieu n'a pas spiré en nous l'amour, on ne saisit pas le sens profond de la parole de Dieu, le sens ultime de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous conduit à cet amour profond de découvrir comment Jésus nous aime. Troisième petite remarque avant d'entrer dans l'évangile de Saint Jean, parce que c'est important de faire ces petites remarques intéressantes. Il faut comprendre que toute la révélation se termine par les trois grands écrits johanniques. L'Apocalypse, la première épître, et puis l'Évangile. Et ça, je crois que c'est très important de bien comprendre que ces écrits johanniques sont distincts, mais inséparables. Ils sont liés entre eux. Et ils s'éclairent mutuellement. L'Apocalypse éclaire l'Évangile, l'Évangile éclaire l'Apocalypse. Et on doit les lire parallèlement, on ne va pas le faire tout le temps, hein, mais au fond on doit les lire parallèlement, parce que les deux s'éclairent mutuellement. Et on comprend très bien. L'Apocalypse dans ce qu'elle a de tout à fait particulier, vous savez bien, vous avez quand même lu un tout petit peu l'Apocalypse, mais vous la lirez encore plus avec, dès qu'on est dans l'Évangile de Saint Jean et qu'on veut comprendre l'Évangile de Saint Jean jusqu'au bout, on se plonge dans l'Apocalypse. Et une fois qu'on est plongé dans l'Apocalypse, on n'y comprend plus rien, on revient à l'Évangile de Saint Jean pour avoir une autre lumière. Et c'est vrai que c'est les deux. Et l'Apocalypse a l'immense avantage de nous faire comprendre qu'on est toujours des novices du Saint-Esprit. Parce que quand on lit l'Apocalypse, on voit qu'on ne comprend pas grand-chose. C'est bon, de temps en temps, de lire des livres dont on ne comprend pas grand-chose. Pour l'humilité, c'est merveilleux. Hein. C'est montrer que, de fait, on ne sait pas grand-chose. Parce que quand vous lisez des livres faciles à lire, hein, des romans policiers, hein, bon, vous le devinez. Et vous le devinez d'avance. Oh, comme je suis intelligent, j'ai tout compris. Tandis que quand vous lisez l'Apocalypse, qui est le roman policier le plus merveilleux qui soit, n'est-ce pas ? Eh bien, quand vous lisez l'Apocalypse, vous êtes obligé de dire « Ah, je ne comprends pas tout. » Alors, vous êtes obligé de recommencer indéfiniment, et vous lisez indéfiniment l'Apocalypse. Et l'Apocalypse, c'est le livre qui nous empêche de désespérer. Quand on est un peu dans le désespoir, hein, parce qu'il y a du brouillard, parce que le brouillard intérieur et extérieur, voyez, on ne voit plus rien, etc. Alors on lit l'Apocalypse. Moi, je dis bien qu'au noviciat, la seule chose qui m'a permis de tenir, c'était de lire l'Apocalypse. Parce qu'alors, ça nous fait un nectar extraordinaire qui vous donne un coup de fouet merveilleux. C'est quelque chose de très fort, l'Apocalypse. C'est vraiment très fort. Ça secoue profondément. C'est le livre de l'espérance. Et puis, en plus de ça, c'est le livre le plus merveilleux qui soit, pour le plus symbolique. C'est le livre le plus intelligent d'un point de vue du symbole. Trois points. Voyez, Hésiode pâlit devant l'Apocalypse. Hein. La théogonie d'Hésiode pâlit devant l'Apocalypse. L'Apocalypse a une espèce de vigueur extraordinaire. C'est le grand livre de l'espérance, l'Apocalypse. La première épître de saint Jean, c'est le grand livre de la charité fraternelle. Et l'Évangile, c'est le grand livre de la contemplation. Alors vous avez le rythme johannique. Hein, et ça, c'est important. L'Apocalypse nous montre les grandes luttes. Nous sommes dans les luttes. On a toujours envie de se reposer. Hein? Et l'Apocalypse nous montre pas de repos. Oui, il y a le millénarisme. Hein? Hein? Curieux. Il y a quand même le millénarisme dans l'Apocalypse. Pendant 1000 ans, le démon est enchaîné. Alors, on est au repos. Hein? Faut bien comprendre ce que je veux dire. C'est pas si commode que ça. C'est intéressant de voir ça. Pendant 1000 ans, le démon est enchaîné. Donc, ce qui prouve qu'au milieu de la lutte, il y a quand même une petite zone de repos. 1000 ans. Ben, 1000 ans, si ça peut se prendre en extension ou en compréhension, c'est quelque chose d'assez étonnant. C'est 1000 ans. On essaiera de comprendre ça, hein, parce que c'est intéressant. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Apocalypse nous montre les grandes luttes. Donc, l'Église militante. Tous les traités de l'Église qui se sont faits jusque maintenant n'ont jamais exploité l'Apocalypse. C'est très très curieux. Alors que l'Église, c'est l'Église militante, et donc c'est dans la lumière de l'Apocalypse qu'on devrait faire le traité de l'Église. C'est un fait, voulez-vous, les théologiens sont paresseux, alors ils ont de la peine à regarder le mystère de l'Apocalypse. C'est vrai, c'est difficile de regarder le mystère de l'Apocalypse, c'est pas commode. Il faut le vivre. Alors si on le vit, on comprend. Le point de vue de la première épître, donc, c'est le secret du mystère de la charité fraternelle. Ce n'est pas la vie commune, hein, distinguons bien. La vie commune n'est pas le mystère de la charité fraternelle. Heureusement. La vie commune, ce n'est pas un mystère. Comme tout le monde sait, c'est pas un mystère. Et c'est vrai, plus on est nombreux, plus la vie commune est lourde. Ça, c'est pas mystérieux. Phénomène de pesanteur, hein, et de poids et de multitude. Tandis que le mystère de la charité fraternelle, ça c'est autre chose. C'est un mystère d'amour, au plus intime de notre cœur. Et l'évangile de saint Jean, nous le verrons, c'est le grand mystère de la contemplation. Tout l'évangile de Jean nourrit notre contemplation. C'est la nourriture propre de notre contemplation. Si on essaie de lire vraiment de cette manière, qu'on découvre dans l'évangile de Jean toute la grande théologie mystique. Et c'est à travers l'évangile de Jean qu'on découvre toute la théologie mystique. Et toutes les dimensions du mystère juristique. Donc, vous voyez, les trois écrits se tiennent. Alors, comprenons bien, encore, dernière petite remarque, que le Saint-Esprit, pour nous donner cette ultime révélation, s'est servi d'un homme particulier, le disciple bien-aimé. Ça, c'est très beau. Le Saint-Esprit s'est servi de Marc, de Matthieu, de Luc. Le Saint-Esprit s'est servi donc d'hommes qui sont des instruments de la révélation. C'est vrai, ce sont des instruments de la révélation. Ils ont été des instruments de la révélation. Le dernier instrument de la révélation, c'est le disciple bien-aimé. C'est l'ami. Et vous comprenez que c'était nécessaire pour nous. C'était nécessaire de savoir que c'était le disciple bien-aimé. Mais Jean ne pouvait dire qu'il était le disciple bien-aimé qu'à la mort de tous les autres. Ça n'aurait pas été très, très, très bien, voir les autres vivants disant « je suis le disciple bien-aimé ». Voyez Pierre. C'est quand même pas vrai. Toi, tu es assis sur le trône de Rome, mais tu n'es pas le disciple bien-aimé, c'est moi. Non, ça n'aurait pas été très, très délicat. Il fallait que tous soient dans le ciel. Dans le ciel, il n'y a plus que la vie, dans le ciel, il n'y a plus que le ciel. Bon, c'est quelque chose de merveilleux. Alors Jean pouvait, et il fallait qu'il signe le disciple bien-aimé pour qu'on comprenne que c'est le disciple qui va nous révéler le cœur de Jésus. Il fallait qu'il soit le disciple bien-aimé. Il fallait que ce soit celui qui a été témoin de la croix. C'est le seul qui a été témoin de la croix. Luc n'a pas été témoin de la croix. Marc, Matthieu non plus. Le seul qui a été témoin de la croix, saint Paul non plus. Il fallait que ce soit celui qui reçoive à la croix Marie. C'est-à-dire celui qui reçoit la bonne terre, celle qui garde dans son cœur tout l'enseignement de Jésus. Celle qui garde dans son cœur tout l'enseignement de l'ancienne alliance. Marie fait le lien entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Marie fait le lien entre Jésus et le début de l'Église. Il fallait que ce soit elle qui, de fait, fasse ce lien, elle qui est le mystère de la tradition. Dans ce qu'elle a de plus secret, de plus profond. Et donc il fallait que Marie soit donnée à Jean pour que Jean puisse réaliser ce que l'Esprit Saint lui demandait, de donner cette dernière révélation. C'est assez impressionnant quand on regarde ce qu'a été Jean. Alors, on dit bien, le disciple bien-aimé, c'est celui qui a la scène est tout proche de Jésus. C'est celui qui a la scène est tout proche de Jésus. Il est tout proche de la poitrine de Jésus, tout proche de son cœur. Il y a un lien très unique entre Jean et Jésus. Un lien très unique. Et il fallait que ce soit le disciple bien-aimé qui nous donne la dernière révélation. La révélation de l'amour. Il fallait que ce disciple bien-aimé aille jusqu'au bout de la fidélité, témoin fidèle, la croix. Et témoin du cœur blessé. Il fallait que ce disciple reçoive Marie pour qu'il puisse aller jusqu'au bout de sa révélation. Qu'il soit le lien entre la parole du Christ qu'il a entendue et la tradition gardée dans le cœur de Marie. Parce que je crois que Jean, durant la vie apostolique de Jésus, sûrement qu'il était très lié à Jésus, mais Jean était novice, il était tout jeune, et il ne comprenait pas. Tandis que Marie, elle, comprenait. Et je crois que c'est Marie qui lui a redit tout. Alors vous voyez que la tradition fait le lien entre toutes ces années qui se sont passées et nous permet de comprendre comment Jean reste un témoin fidèle de l'amour du Christ et des faits que Jésus a vécu. Alors, dernière remarque, parce que c'est aussi une chose intéressante, là je fais une remarque tout à fait personnelle. Quand, à la fin de la vie du Père Dehaut,
donc de mon vieil oncle. Le père Dôme disait constamment ceci, et je pensais toujours à Saint-Jean quand je le voyais. Saint-Jean. Il disait ceci, c'est curieux à la fin de sa vie. C'est pas ce qu'on a vécu quand on avait 45 ans qui est le plus actuel. C'est ce qu'on a vécu quand on avait 18, 19 ans. Les rencontres qu'on a faites à cet âge-là. Mettez pour vous 20 ans, hein, jusqu'à 20, 25 ans, c'est sûr, hein, de 18 à 25 ans. C'est ça qui marque le plus. C'est pas ce qu'on a vécu, voyez, en pleine activité apostolique. C'est pas ce qu'on a vécu en pleine activité, non. C'est, tout ce qu'on vit en pleine activité, c'est assez périphérique. Les rencontres, c'est tout à fait différent. L'évangile de Jean, c'est l'évangile des rencontres. Vous verrez. Et c'est ça que Jean a gardé dans son cœur. C'est ça que ce vieillard, parce que Jean écrit son évangile quand il est un vieillard, 90 ans, sans doute. Il nous montre les rencontres quand il avait 18 ans, 19 ans. Jean qui rencontre Jean-Baptiste. C'est Jean qui nous fait découvrir ce que c'est que Jean-Baptiste. Jean qui découvre Jésus. Jean qui découvre les disciples. Il a fait ses rencontres auprès de Jésus. Jean qui découvre Marie, qui découvre Marie de Magdala. Il y a toute une série de rencontres. Vous voyez, il y a cette chose très très mystérieuse dans l'évangile de Jean. C'est que tout est ordonné au mystère du cœur de Jésus. C'est l'évangile de l'amour, c'est l'évangile du cœur du Christ et du cœur blessé de Jésus. C'est vraiment cela, l'évangile de Jean. C'est l'évangile du cœur de Marie comme une source souterraine et c'est l'évangile du cœur de Jean. Parce que c'est l'évangile du disciple bien-aimé. Et donc c'est l'évangile de ces trois cœurs, vous voyez. Et si on regarde attentivement, on comprend bien que nous sommes là en présence du chiffre de l'Église, comme on dirait au point de vue biologique. Le premier moment de la conception de l'Église, hein, c'est lorsqu'il y a Jésus sur la croix, Marie et Jean, la grande icône de la très sainte Trinité. Et c'est le chiffre divin de l'Église, ce qui est la marque qui unit Marie et Jésus, qui unit Marie et Jean. C'est ce qui est au point de départ. Ce qui est au point de départ se retrouve au terme. Je ne sais pas où l'on en est dans l'histoire de l'Église, mais on est quand même en face d'événements qui peuvent nous dire que nous sommes en face des grands tremblements apocalyptiques de l'Église. Ça peut durer, ne craignez pas, ça peut durer. Mais ça peut aussi aller très vite, j'en sais rien. On verra ça dans quelques années, hein. Mais ça peut aller très vite comme ça peut durer. Ce qui est très curieux, c'est qu'on retrouve aujourd'hui ce qui est au point de départ, ce qui est initial, ce qui est caché et qui est présent. Ce qui est au point de départ, ce n'est pas les actes des apôtres, c'est le mystère d'amour caché. L'Église est un mystère d'amour. Nous regardons toujours les événements périphériques. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant dans le regard de Dieu. C'est le mystère de l'amour. C'est la marque d'amour sur le cœur du Christ. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Marie est celle qui est choisie par le Christ, en qui le Christ a mis toutes ses complaisances. Et Jean est le disciple bien-aimé en qui Jésus et Marie ont mis toutes leurs complaisances. Alors, c'est ce mystère initial que nous retrouvons aujourd'hui et que nous devons redécouvrir aujourd'hui. C'est comprendre que l'Église, c'est ce mystère d'amour. C'est cette alliance de complaisance du Père à l'égard de son Fils, à l'égard de Marie, de la femme, à l'égard de Jean. Et c'est ça qu'on doit découvrir de plus en plus. Si on ne saisit pas ça, on ne saisit pas le mystère de l'Église. On saisit l'Église d'une façon extérieure, vous voyez, d'une façon périphérique. Tandis que là, nous saisissons profondément l'Église. Je crois que c'est ça la note particulière, voyez, du renouveau de l'Église. Le renouveau de l'Église, il se fait dans ce retour à la source. Et ce retour à la source de l'Église, elle est trinitaire, l'Église. Et c'est pour ça que nécessairement la source de l'Église, c'est les trois. C'est le Christ, c'est Marie, c'est Jean. C'est ça qui est au cœur. Et c'est ça qui est caché toujours. Nous allons donc, c'est l'heure. Nous allons donc commencer la fois prochaine à regarder le mystère de l'évangile de Saint Jean. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
On doit pouvoir voler ce pour vos âmes. Car à ce moment-là, c'est vraiment le point de vue de la vérité qui compte. Et la répétition est un phénomène qu'on doit autant que possible diminuer. On est obligé de répéter. On est obligé. Il y a tout un facteur de répétition dans notre vie. Ça fait partie de notre tradition. Vous voyez ? Mais on doit tendre à ce que la répétition diminue le plus possible. Pour être source, pas pour le plaisir d'inventer d'une façon nouvelle, pas pour le plaisir de l'originalité pour l'originalité, mais pour découvrir le propre de la découverte. Et on répétera peut-être exact, on dira peut-être exactement la même chose. Mais à la différence, c'est qu'à la place de répéter, on l'a découvert. Et ça se sentira tout de suite. On verra au tournant un peu difficile. Oui.
Est-ce que le fait que dans un ordre aussi parfait que la métaphysique en tant que l'être en tant qu'être, il y a deux principes, c'est-à-dire deux inductions aboutissant à deux causes différentes, est-ce que c'est un scandale au niveau intellectuel? Ou bien est-ce qu'en soi.
C'est pas un scandale, mais j'ai parlé de l'unité, faisons attention.
Non, d'accord, mais je pose la question.
Mais non, parce qu'il y a plusieurs interrogations.
Voilà.
C'est pas la même chose du tout. Je me suis placé exprès du côté de l'unité, en voyant que l'être acolyte de moi. Alors, deux principes, il doit y avoir comment ça se fait. Deux principes, un, ça ne va pas. Ça fait très curieux. Mais s'ils ont principe un, s'ils sont deux, ils ne sont pas un. S'ils sont deux, ils ne sont pas un, alors par le fait même, ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Puisque tous les deux sont principaliterens.
Oui, mais dans
leur ordre. Ah, dans leur ordre, alors vous trouvez l'ordre. Mais le principe n'implique pas l'ordre. Je vous voyez pas. Je regarde les deux principes. Je dis tous les deux impliquent, sont source d'unité. Donc il y a deux unités. Ben oui, c'est là le scandale. Parce qu'il ne peut pas y avoir deux unités. Il y en a une. Alors vous sortez du scandale en voyant le point de vue de l'ordre. C'est pour ça que vous disiez, en voyant que c'est par l'acte que vous découvrez là, et que vous voyez que la substance est ordonnée à l'acte.
L'unité de la substance est ordonnée à l'unité de l'acte.
Non, la substance est ordonnée à l'acte.
Alors elle est principe.
Mais oui, elle est principe. Elle est principe selon le point de vue de la forme.
Moi, je sens qu'elle est ordonnée à l'acte, mais je n'ose pas l'affirmer.
Pourquoi ?
Mais parce que je me dis que si j'affirme ça, ça veut dire que je relativise un principe.
Mais pas du tout. Mais non, c'est pas relativiser un principe, puisque c'est un principe. Tout principe est du côté de l'intelligence et l'être est au-dessus. Alors, si vous êtes poussé jusqu'au bout, c'est Spinoza.
Quoi ?
Je vais donner un raisonnement à la manière de Spinoza maintenant. Votre raisonnement, Spinoza, il peut y avoir qu'un seul principe, Dieu. Quoi c'est ?
Parce que je veux dire quelque chose,
là, vous voyez. Bon, si vous ne devez pas, parce que vous dites un principe, c'est absolument. Donc je veux dire, il n'y a qu'un seul principe, Dieu.
Non, mais le premier
dans ce monde. Ah oui, le premier dans ce monde. Alors il y a d'autres premiers.
Oui.
Bon, donc alors. Et c'est des principes.
Oui,
Comment vous aboutissez à Spinoza? Il n'y a qu'un seul principe. Bon. Alors, il y a une autre question, mais ça, je ne sais pas si je vais rentrer là-dedans, parce que c'était la question il y a plus que 3 minutes, alors on peut mettre 3 mots là-dessus. Pourriez-vous parler des rapports entre les dons du Saint-Esprit et les missions? Ben, c'est tout à fait autre chose que ce que nous avions vu. Parce que nous avions essayé de comprendre le levain qui transforme la pâte. Le levain qui transforme la pâte, c'est justement essayer de comprendre comment la grâce vient transformer la nature humaine à ses différents niveaux. Comment il y a un ordre entre les trois vertus théologales et comment les dons du Saint-Esprit viennent transformer. Quand il s'agit des missions, vous n'êtes plus du tout dans la perspective du levain qui transforme la pâte. Vous êtes du côté de la très sainte Trinité qui fait irruption en nous. Donc ça, c'est le point de vue théologique, tout à fait. Vous comprenez ? C'est plus la perspective dans laquelle nous nous plaçons ici. Ça me dit, j'hésite parce que c'est tout à fait autre chose. Alors ça, c'est un cours de théologie sur les dons du Saint-Esprit et les missions divines. C'est deux choses différentes. Les dons, c'est toujours relatif à la personne qui a été sanctifiée par la grâce. Et les missions, c'est toujours relatif à Dieu qui vient vers moi. Parce que c'est Dieu qui envoie. Donc c'est deux mouvements différents. Alors ces deux mouvements différents se rencontrent, c'est bien évident. Il n'y a pas d'opposition entre les deux. Mais il faut quand même toujours respecter ces deux perspectives. Alors, ce qu'on peut se demander, c'est où y a-t-il, non pas collision, parce qu'il n'y a pas de collision, mais où y a-t-il de fait une union entre les deux? Alors, vous pouvez aller dans certains cas particuliers où vous dites là, il y a mission du Saint-Esprit. Là, il y a exercice des dons. Mais c'est deux choses différentes. Il faut respecter la diversité, il faut respecter, encore une fois, l'unité dans l'homme, puisque l'Esprit Saint est envoyé à l'homme, le Christ est envoyé aux hommes, et les dons du Saint-Esprit sont pour sanctifier l'homme, et les missions sont pour permettre que cette sanctification soit plénière et totale. Alors, donc, il y a de fait une union, mais c'est quand même deux aspects différents qu'il faut respecter.
Oui. Et leur mission, sans exercice des dons.
Non, sûrement pas.
Donc,
c'est une collision. Quoi? Ah, c'est pour ça que j'ai dit, d'un côté c'est l'homme qui est surnaturalisé, de l'autre côté c'est Dieu. Donc, vous voyez, peut-il y avoir grâce, donc la grâce sans mission?
Non. Peut-il y avoir l'exercice des dons sans mission?
Ah oui, sûrement. Peut-il y avoir l'exercice des dons sans mission? Sans mission au sens fort. Il y a la mission générale du don de la grâce. Alors on pourrait dire.
Mais la grâce, elle est continuellement.
Oui, elle est quand même tout ça. Alors il y a toujours cette mission du Saint-Esprit. Alors vous voyez, sous ce point de vue-là, on pourrait dire une mission nouvelle, vous voyez.
Est-ce qu'il y a des missions
nouvelles? Oui, quoi? Il peut y avoir des missions nouvelles. C'est évident. Ah, quand vous êtes entré à Bethléem, il y a une mission nouvelle. Vous voyez, c'est la vocation implique une mission nouvelle. Le fait de faire un pas décisif, vous voyez, implique déjà. Enfin, tous des actes importants de notre vie, très importants, où il y a vraiment en vue de notre sanctification, en vue de notre prédestination, il y a une mission nouvelle. Tandis que là, je suis d'accord que, si vous voulez, je pourrais dire, l'exercice des dons implique tout le temps la mission générale du don de la grâce. Et vous en avez tout ça. Ça, c'est sûr. Dans cette mission-là, l'exercice d'une mission nouvelle, vous voyez, va impliquer alors, ordinairement aussi l'exercice d'un don, toujours pour recevoir cette mission, en vue de recevoir cette mission. Bon. Oui.
Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'il y a une mesure dans le don de la grâce, où est-ce qu'on donne la grâce infiniment?
Il donne la grâce sans mesure.
Sans mesure,
voilà. Et la mesure.
Alors pourquoi est-ce qu'on n'est pas dans le parfait cancer?
Quoi? Oui, mais il faut croire. Vous êtes peut-être saint actuellement de la sainteté que Dieu veut pour vous actuellement. C'est pas si mal. Que Dieu veut pour vous actuellement. Mais vous devez normalement aller plus loin. Que Dieu vous permettra de vivre encore demain. Donc vous devez croire dans l'amour. Vous voyez, si Dieu vous laisse un certain temps sur la terre, c'est pour croire dans l'amour.
Comment expliquer qu'il y a une certaine grâce?
Nous sommes à la mesure de la grâce du Christ. C'est la grâce du Christ, c'est la plénitude de la grâce du Christ qui mesure notre grâce. Nous ne sommes pas encore arrivés à cette plénitude de la grâce du Christ. Oui. Alors il y a encore l'espace, il y a encore des possibilités, il y a des moins.
La grâce ne peut pas diminuer comme la charité.
Mais si on reste longtemps au même degré de grâce sans progresser, on est en péril de perdre la grâce. Ça, c'est la grande cause de la croissance de grâce. Ne pas vouloir croire, c'est se mettre en péril. Parce que la grâce demande de croire. C'est quelque chose qu'on se fait, quand il est pressé, là. On voit qu'ils restent avec leur foi, ils ne progressent pas dans la foi. Eh bien, un jour ou l'autre arrive une difficulté. Parce qu'ils n'ont pas cherché à croire. Et la loi de croissance est essentielle à l'Église. C'est essentiel. On ne peut pas rester au même niveau en disant « J'ai fait assez d'efforts maintenant. » Un an de médecin, c'est bien, c'est parfait, c'est maintenant, ça y est. Sur ce de bonne râle, ça va aller. Maintenant, tout le temps, être novice du Saint-Esprit. Et on est tout le temps novice du Saint-Esprit. Alors le novice, c'est celui qui demande d'aller toujours plus loin. Donc de croire.
C'est une raison mystique.
Non, c'est une raison théologique tout court. Une raison théologique tout court. Il y a une exigence de croissance. Hein. Oui, mais il y a une exigence de croissance, il y a donc une exigence de conversion constante. Une exigence, Dieu nous a donné la foi, mais nous sommes responsables de la croissance de la foi. Dieu nous a donné l'espérance et nous sommes responsables de la croissance de l'espérance. Oui, et nous devons croître. C'est la loi profonde. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas encore arrivés au terme. Il y a une aspiration vers le terme, vers notre bien.
Comment avec une plénitude de grâce, on n'arrive pas tout de suite au terme.
Mais une plénitude de grâce, votre grâce, elle n'est pas plénière. Actuellement, le Christ ne nous donne pas toute sa grâce. Nous participons à la grâce du Christ. Nous n'avons pas la grâce du Christ. Il ne faut pas dire que j'ai actuellement en moi la grâce du Christ. J'ai la grâce du Christ en sens que ma grâce vient du Christ. Et je n'ai pas la même plénitude. Vous voyez, je participe. C'est pour ça qu'on doit croire. Et c'est pour ça qu'il y a la foi et la charité pour pouvoir croire par amour.
Tu donnes la grâce tout à coup ?
C'est tout à coup. C'est tout à coup du mendiant.
Le conventionnel.
À proportionner, par rapport à vous ? C'est le tout à coup ?
Oui.
Toujours un tout petit peu plus que votre appétit actuel.
Est-ce qu'il donne à tous un peu ?
Toujours un petit peu plus que votre appétit actuel, pour que vous puissiez croire. Je vous l'ai dit, c'est pas seulement pour vous maintenir. Vous voyez ? Il continue de respirer, ça va. Non, c'est faux, vous sauvez.
Ah, Dieu, ton but, c'est grâce à son désir.
C'est évident.
Tout le temps.
Il donne toujours au-delà de ce que nous. Pour que nous puissions croire. C'est pas seulement nous maintenir et nous conserver dans la vie divine, mais c'est pour que nous puissions aller plus loin. Vous voyez ?
La coopération de la grâce, c'est de l'ordre de. C'est une nécessité pour recevoir la grâce, ou alors c'est juste avoir de l'amour ? Un témoignage de la
désir. Je crois que je vais avoir de la désir. Je crois juste que nous allons un peu plus de grâce que nous coopérons, que Dieu n'aide pas les gens engagés. Et à la désir engagée, déjà, je dis, c'est si Dieu en est bon, c'est pas si mal. Mais non, Dieu n'aide pas ça. Dieu veut que tout le temps que nous augmentions dans la grâce. Et donc, il y a cette coopération. Et cette coopération, elle s'est devenue de manière.